Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Au programme ce soir, le recteur de la Grande Mosquée de Paris à 18h15, il s'appelle Chemseddine Hafiz. 18h30, l'œil de Natacha Polony qui va nous faire passer le bac. 18h40, Christian Roudot qui publie à la table des tyrans un livre étonnant qui lit dans l'assiette des dictateurs. Puis ce sera la culture de l'actu. Après le journal de 19h, il y a un an, il y a un siècle. Et puis le monde tel qu'il est, débat et controverse au programme. Le menu est riche, il est varié et on attaque avec vous Amandine Bégaud. Bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Voici les grands titres dans l'actualité de ce lundi 12 avril.
Et à la une ce soir, cette fusillade cet après-midi devant un hôpital en plein Paris. Un homme a été tué, une femme grièvement blessée. Dans ce journal également, Londres qui revit après plus de 3 mois de fermeture. Les pubs et coiffeurs ont rouvert aujourd'hui. Et puis on ira prendre la température du côté du PSG. J-1 avant le match retour face au Bayern. C'est demain au Parc des Princes.
La météo, bonsoir Louis Baudin. Ah, Louis Baudin qui est en ligne avec nous, mais on a un petit problème technique. Attention, la météo, la tendance, c'est le froid et le gel encore au rendez-vous. Il fera encore bien froid demain, on détaillera, c'est ça que je cherchais, juste après le journal.
RTL Soir.
Mais d'abord, on commence donc avec ce témoignage, celui de ce restaurateur du 16e arrondissement de Paris, installé juste devant l'hôpital Henri Dunant, où a eu lieu cette fusillade cet après-midi. Covid oblige, Arnaud fait actuellement de la vente à emporter. Et il a tout vu.
Oui, moi, j'étais en train de vendre des cafés, j'ai entendu une détonation, je me suis retourné, j'ai vu un mec tomber au sol, un noir de 35 ans, plutôt assez jeune, et il y avait un mec derrière lui, encapuché avec un masque, peau claire, qui lui a tiré dessus une première fois, il est tombé, et puis il l'a terminé au sol, dans la tête, quoi.
Il lui a tiré dans la tête au sol.
Ouais. 2 coups de feu au sol, à bout portant, et après, il est reparti, mais en marchant tout tranquille, quoi. Sans courir, sans panique, sans rien, quoi. Jusqu'à, il a dû faire 200 mètres pour retrouver un scooter qui l'attendait, mais il était pas en mode stress. Il est monté sur un scooter qui était conduit par quelqu'un d'autre. Pour moi, ça ressemblait à un contrat professionnel, quoi. C'était ciblé, ouais, c'est certain.
Témoignage recueilli pour RTL par Thomas Proutot. Bonsoir Sébastien Rouxel.
Bonsoir.
Vous êtes sur place sur les lieux de cette fusillade pour RTL. Alors on vient d'entendre ce restaurateur, c'était ciblé, dit-il. Est-ce que c'est aussi l'avis des enquêteurs ?
Eh bien, tout laisse penser effectivement à une exécution froide, préméditée. L'enquête ouverte par le parquet de Paris l'a d'ailleurs été pour assassinat notamment. Mais on ne connaît pas les motivations de l'auteur des tirs. Il est toujours en fuite. Des équipes de la BRI sont mobilisées, prêtes à intervenir. Et dans le même temps, une dizaine de policiers au moins continuent ce soir de s'activer sur place pour en savoir davantage. Le périmètre reste bouclé autour de l'hôpital Henri Dunant. C'est devant cet établissement privé que plusieurs coups de feu ont retenti peu avant 14h. 2 personnes ont été touchées par balle. Elles ont immédiatement été prises en charge par le personnel de l'hôpital. Une femme, une agent de sécurité, est dans un état grave. L'autre victime, un homme touché plusieurs fois à la tête, est décédé. À l'heure où je vous parle, la police ne l'a toujours pas identifié.
Et Sébastien Rouxel en direct pour RTL.
18h03, Amandine, si on allait prendre un verre, si on allait prendre un verre en terrasse, là, soyons fous.
Ou faire même du shopping.
Si vous voulez.
Et oui, et c'est possible, figurez-vous, outre-Manche depuis ce matin. Nouvelle étape du déconfinement en Angleterre. On va d'ailleurs tout de suite retrouver sur place Marie Billon. Bonsoir Marie, vous êtes en direct de Covent Garden. Ça y est, le centre de Londres revit.
Oui, et en plus il fait grand soleil alors qu'il neigeait quand même ce matin. Tout ça donne certainement du baume au cœur des Londoniens et certains veulent en profiter au maximum.
Je me suis réveillée à 7h, j'étais à la salle de sport à 8h, je me suis fait poser des fossiles à 11h et puis je suis allée en centre-ville pour un café et me promener. Je suis tellement contente que tout soit réouvert, il y a une super ambiance et je compte rester dehors jusqu'au dernier train.
Alors il y a des files d'attente devant certains magasins, on voit beaucoup de monde avec des sacs petits et grands à la main déambuler et puis se poser en terrasse.
On profite que les magasins soient ouverts, mais on est d'abord allé manger parce que c'est ce qui nous a manqué le plus. Covent Garden est quand même beaucoup moins rempli que d'habitude, donc tant mieux. Il y a plein de petits cafés, de petits magasins indépendants à côté de grandes enseignes. D'ailleurs, les boutiques indépendantes adhèrent plus aux règles de distanciation que les autres, donc je préfère ça.
Mais en dehors des boutiques, pas de masque, ça n'est pas obligatoire au Royaume-Uni en extérieur. On sent vraiment qu'il y a de la légèreté dans l'air. On a presque l'impression que la pandémie, qui est pourtant toujours en cours, est déjà oubliée.
Eh ben, j'ai bien compris, Marie. Vous savez pourquoi j'attendais, moi, Amandine en terrasse? En fait, elle est en train de se faire poser des fossiles. C'était elle, hein?
C'était moi, c'est ça. J'ai fait l'aller-retour très vite. Merci, Marie, en tout cas, en direct de Londres pour RTL, ici en France. pas encore de réouverture, mais deux nouveautés aujourd'hui, la vaccination d'abord des plus de 55 ans et puis les autotests. Ils sont disponibles en pharmacie depuis ce matin, enfin dans certaines pharmacies, hein, une officine sur quatre environ en a reçu. Et pour l'instant, pas de grosse ruée pour celles qui en ont. Éric Le Fur est pharmacien à Saint-Avertin, près de Tours.
C'est en train de se mettre en place. C'est réservé donc aux personnes asymptomatiques. On remet aux personnes donc une petite brochure pour bien leur expliquer. Parce que si le prélèvement est mal fait, le résultat sera automatiquement pas bon. Et puis en même temps, on est là pour les conseiller et pour leur dire surtout que même si le test est négatif, de garder les gestes barrières. Si le test est positif, d'aller faire un test PCR pour confirmer.
Éric Le Fur, pharmacien à Saint-Avertin, des propos recueillis pour RTL par Christian Ponvert. Les maires, eux, avaient jusqu'à midi aujourd'hui pour faire connaître leur avis sur le maintien ou non des élections régionales au mois de juin, et ce, avant un débat qui est prévu demain à l'Assemblée. Le ministère de l'Intérieur indique ce soir que près de 70% des élus ont répondu, 2 sur 3, et plus de la moitié, 56%, sont pour
on a le résultat,
le maintien.
Alors. 56% pour
les maires, en tout cas, parmi les plus réticent, le maire de Saint-Cloud, tout près de Paris, Jacques Serret, l'a rencontré pour RTL.
Au premier étage de l'hôtel de ville, juste à côté de son bureau.
C'est juste là, vous allez voir. Il n'y a personne dans la salle des mariages.
Éric Berdoati, maire sans étiquette, d'hiver droite, nous montre la salle des mariages, l'un des 21 bureaux de vote de cette ville de 30 000 habitants.
Les gens, ils rentrent par un côté, ils ressortent par l'autre. Et vous voyez que la salle est suffisamment vaste. Il y a du gel hydroalcoolique, vous le voyez, il est là déjà d'ailleurs.
Pourtant, cet élu plaide pour un report de ces élections en octobre.
Les régions et les départements, c'est très important. Raison de plus pour qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions.
Car pour lui, la sécurité sanitaire ne peut être assurée, notamment au moment du dépouillement.
4 personnes par table, on va ouvrir chacune des enveloppes, on passe le bulletin au scrutateur qui est en face et il lit le bulletin. Donc vous voyez bien qu'il y a une manipulation. Le conseil scientifique nous dit qu'il faudrait éviter tout ça.
Et encore faudrait-il qu'il trouve des volontaires pour tenir ces bureaux de vote.
J'étais sur le marché samedi et moi j'en ai vu certains qui me disent qu'ils ne viendront pas ni être scrutateurs ni assesseurs parce qu'ils ont peur de la pandémie. Il y a des gens qui disent nous, on n'est pas vaccinés, on nous explique qu'on n'a pas le droit de se voir en famille à plus de 6 personnes et que les grands-parents ils doivent rester, ils ne voient pas leurs petits-enfants, mais par contre il faut aller s'entasser dans un bureau de vote. Bah, ils nous disent non.
Si ces élections devaient être maintenues, Éric Berdoati craint d'avance de voir réquisitionner les fonctionnaires de sa mairie.
Voilà, et on verra évidemment comment tout cela sera interprété par le gouvernement. Demain, notez que c'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, qui sera à 7h40, l'invité d'Alba Ventura dans la matinale d'Yves Calvi. Petite pause, dans un instant, on va à Haïti au lendemain de l'enlèvement de 2 Français. La police soupçonne un gang armé.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est 18h09, pardon, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et on n'a toujours pas de nouvelles ce soir des 7 religieux qui ont été enlevés hier en Haïti.
2 Français et 5 Haïtiens. La police là-bas soupçonne un gang armé, Brice Dugénie.
Absolument, dans cet état en plein chaos, l'annonce de l'enlèvement n'est pas une surprise pour des autorités impuissantes, parfois même jugées complices de ces violences. Depuis un mois, certains quartiers de la capitale Port-au-Prince ont été placés sous état d'urgence et des manifestations de riverains ont eu lieu pour dénoncer ces enlèvements. Enlèvement régulier et l'inaction politique contre les gangs. C'est ce qu'explique Godson Pierre, journaliste à la radio locale Alter Press.
C'est installé depuis un bon bout de temps un gang qui terrorise la population et qui pratique des enlèvements. C'est la terreur un peu partout et particulièrement à la capitale. En fait, le phénomène des gangs se développe beaucoup depuis environ 2 ans et très souvent dans beaucoup de cas, c'est avec la complicité d'autorités.
Les 2 Français, le père Michel Briand et la sœur Agnès Bordeaux, connaissaient ces risques. Ils avaient d'ailleurs, lui en Haïti, elle au Honduras, puis au Guatemala, déjà enduré des violences et des agressions. Elle avait même été mise en joue par des cambrioleurs il y a une dizaine d'années. Mais cela ne les a jamais détournés de leur mission d'aide à l'une des populations les plus pauvres de la planète.
Brice Dugénie du service étranger de RTL. Le
on
foot
passe au foot et les exploits en foot, on ne peut pas en profiter très longtemps, hein. Parce que moins d'une semaine après l'exploit de Munich, match retour pour le PSG, c'est déjà demain.
Mais oui, mais peut-être qu'ils vont recommencer.
Les Parisiens
affrontent le Bayern.
Faut demander à M. Sanfourche.
Au Parc des Princes pour une place, on le rappelle, en demi-finale de la Ligue des Champions. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Rien n'est encore fait, je ne m'emballe pas, mais après leur victoire 3-2 la semaine dernière, l'heure est, et on peut le dire, à la sérénité côté PSG.
Oui, même si sans surprise, le capitaine Marquinhos, blessé au match aller, reste bien forfait. La dynamique est positive après la belle victoire du week-end à Strasbourg et ce sont de bonnes ondes que celui qui prendra les rênes de la défense demain, Presnel Kimpembe, souhaite diffuser.
Ben on est tous très bien, on est calme, on prépare le match sereinement, on connaît l'importance de ce genre de match. Donc voilà, un petit peu d'excitation, mais il faut rester aussi calme et sérieux pour pouvoir bien commencer.
Et oui, parce que c'est une tornade bavaroise qui s'annonce dès l'entame du match dans la lignée des 31 tirs allemands décochés au match aller. Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, serre déjà les dents.
C'est clair que l'on a souffert au match aller, même si on l'a emporté, et on sait que l'on doit améliorer des choses. On veut nous aussi imposer nos idées, mais sans oublier qu'on va jouer contre le Bayern, qui est la meilleure équipe du moment en Europe et dans le monde.
Alors le président Nasser El Khelaifi est venu parler aux joueurs ce matin à l'entraînement, mais pas de mise au vert ce soir à l'hôtel. L'idée étant d'alléger un peu la pression et la charge émotionnelle.
Philippe Sansfourche, qui est un des seuls hommes en ce moment, ou femmes d'ailleurs, à avoir le droit d'aller voir les matchs dans les stades, et qui nous fera vivre ce match demain soir, PSG-Bayern. On sera bien sûr à suivre en direct sur RTL. Coup d'envoi à 20h45, hein, c'est ça ?
21h.
Ah, donc, un coup d'envoi de la soirée à 20h45 et du match à 21h.
Exactement.
Voilà, c'est ça. La bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et vous vous souvenez de Yuan Meng ?
Pas du tout.
Bon, le petit panda qui était né au zoo de Beauval. Eh bien, il va peut-être bientôt avoir une petite sœur ou un petit frère, puisque d'après les premières analyses, sa maman, Yuan Wan, pourrait bien être enceinte. Alors, le vétérinaire du zoo est toutefois très très prudent, car le panda, vous allez apprendre ça ce soir, est champion de la pseudo-gestation.
La grossesse nerveuse.
Pas tout à fait, écoutez.
On est en train d'aligner les petites lumières vertes, d'analyser en fait certains marqueurs, et ces marqueurs sont aujourd'hui plutôt positifs. Ça nous laisse penser qu'il y a eu fécondation. Là déjà, on est dans la phase de diapause embryonnaire, c'est-à-dire que en fait le fœtus est en mode pause. Puis après, il y aura potentiellement la grossesse à proprement parler. On peut aussi bien voir un début de gestation courant mai que fin août, début septembre. Donc pour l'instant, on attend que les hormones changent et que ce soit un indicateur en fait d'une phase de gestation. Elle va se mettre à manger plutôt beaucoup, puisqu'elle va faire des réserves en fait. Et puis après, une phase où au contraire, elle va progressivement diminuer son activité. Donc on va attendre ces changements-là. Puis à ce moment-là, ce qui va être surtout important, ce seront les échographies qui nous permettront d'essayer de voir le ou les bébés. La magie du panda, c'est qu'on peut aussi avoir une pseudo-gestation, c'est-à-dire tous les signes d'une gestation, sauf qu'il n'y a pas de gestation.
Oh, c'est un parcours du combattant.
C'est exactement ça.
Voilà, c'est incroyable. Le fœtus se met en pause.
Et après, il décide j'y vais ou j'y vais pas.
Exactement.
Quoi.
C'était Baptiste Mulot, le vétérinaire de Beauval, joint pour RTL par Sophie Jousselin. Mulot, ça vous a fait tiquer ?
Non, mais j'ai regardé la durée de gestation sur Internet, entre 95 et 160 jours. Voilà, la gestation du panda. Donc ça aussi, c'est très variable.
Le panda, et la maman panda n'est fécondable que 24 heures ou 48 heures, je crois, par an.
Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On est avec notre vétérinaire, je crois, Louis Baudin. Bonsoir Louis, ça y est, on vous a retrouvé.
Bonsoir Thomas.
Bon, parlez-nous du temps. Attention, malheureusement, il va continuer à faire froid et à geler demain.
Exactement, et ça, c'est beaucoup moins drôle, effectivement. Si vous regardez ce soir en vous couchant le ciel et qu'il est étoilé, ça veut dire que demain matin, il y aura encore des gelées, malheureusement, quasiment partout, sauf en bord de mer, sauf dans le centre des grandes villes, c'est l'effet urbain, ou encore tout près de la Méditerranée, où là, ça restera positif, mais ailleurs, malheureusement, encore des gelées. L'après-midi, toujours des températures en dessous des moyennes de saison et assez largement, 8 à 11, 12 degrés, pas plus dans la moitié nord l'après-midi, 12 à 16 dans le sud. Alors, côté ciel, sera pas trop mal avec beaucoup de lumière, sauf dans le nord. Vous avez parlé des neiges qui est tombée sur l'Angleterre, mais ça a traversé la Manche. Demain matin, ça va circuler au nord de la Seine pour se décaler vers le nord-est, laissant quelques nuages, voire quelques flocons là aussi à basse altitude. Mais en cours d'après-midi, tout ça va disparaître pour laisser le soleil s'imposer partout. Grand soleil, quelques nuages quand même sur les Alpes et la Corse, et puis surtout beaucoup de vent près de la Méditerranée, puisque Mistral et Tramontane frôleront encore les 100 km.
Voilà, et on pense particulièrement ce soir encore aux producteurs de fruits et de légumes, évidemment. On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Louis. À la veille du ramadan, au lendemain de la dégradation d'un centre culturel musulman à Rennes, et alors qu'un ministre algérien voit en la France un ennemi traditionnel, le recteur de la Grande Mosquée de Paris est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemzedine Hafiz, et l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Chemzedine Hafiz.
Bonsoir, monsieur Soto.
Un centre culturel islamique tagué à Rennes ce week-end, la porte d'une mosquée incendiée à Nantes dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Diriez-vous, comme Abdallah Zekri, qui est le président de l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie, qu'il y a actuellement en France un climat anti-musulman ?
Pas du tout. Je crois que il y a un sens de l'exagération qu'il faut essayer de relativiser. Je crois qu'il s'agit de tags. Il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu de... Je ne le souhaite pas en tout état de cause, mais dire que la situation est alarmante, je ne crois pas. Il y a une ambiance du fait d'abord de la pandémie. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Et effectivement, à la veille du mois béni de Ramadan, qui est un moment important pour la communauté, ce rendez-vous qui est un des éléments fondamentaux du rite musulman, bien évidemment qu'il y a peut-être des appréhensions, mais je ne crois pas qu'il faille en faire plus. Et
ça veut dire quoi quand vous parlez des exagérations? Est-ce que vous dites, vous parlez de tags, c'est vrai que factuellement ce sont des tags sur un bâtiment religieux. Est-ce que ça veut dire que le ministre de l'Intérieur, on comprend qu'il aille sur place pour soutenir, envoyer un message de soutien, mais est-ce que c'est vraiment sa place ou est-ce que c'est donner trop d'importance aux abrutis qui taguent ça sur un mur?
Non, je pense qu'il voulait donner d'abord un signe. Parce que nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans un contexte à la veille du Ramadan, donc il va y avoir une fréquentation plus importante des mosquées, il va y avoir une intensité sur le plan religieux, donc le fait qu'il y ait un certain nombre de messages haineux sur des murs de lieux de culte, bien évidemment qu'il faut les prendre en considération, mais je crois qu'il ne faut pas être alarmiste, c'est le message que je veux passer. Les musulmans, comme les autres cultes vivent normalement avec, je dirais, les appréhensions que cela crée en matière, comme je vous l'ai dit, cette ambiance de pandémie. Tout le monde est sur les nerfs. Nous espérons tous que nous sommes à la fin de cette vie un peu recluse que nous menons en tant que citoyens. Mais en même temps, il y a une vie spirituelle dans les lieux de culte.
Vous diriez que nos compatriotes musulmans vivent bien et heureux en France aujourd'hui?
Heureusement. Ouais. Bien évidemment que être musulman en France est une chance pour beaucoup. On voit que dans d'autres pays, les musulmans, je prends l'exemple de la Chine, je prends l'exemple de la Birmanie, et même dans certains pays musulmans, nous voyons comment cette absence d'état de droit, cette absence de démocratie fait que la France est effectivement un pays important pour les musulmans, notamment avec les règles de la laïcité où nous sommes tous, communauté religieuse bien évidemment, à égalité par rapport à toutes les autres religions.
Et est-ce que ça important. Veut dire aussi que peut-être les politiques et peut-être nous les médias en faisons trop sur ce type d'incidents qui peuvent exister?
Je crois que surtout les hommes politiques, vous médias, vous suivez un peu l'information, ce qui est normal, mais les hommes politiques, parce qu'avec le temps et puis je dirais le quinquennat, nous avons je dirais une course contre la montre des politiques.
Donc ils surréagissent.
Bien sûr, qui savent que c'est un bon créneau de critiquer les musulmans, de critiquer l'islam, de dire que l'islam n'a pas sa place dans la République, font partie des slogans des partis extrémistes qui aujourd'hui donnent l'impression qu'effectivement les musulmans ne sont pas à leur place.
Alors il y a l'islam et puis il y a l'islamisme qui inquiète. La confédération Miligorus qui est proche de la Turquie et qui est impliquée dans la construction de la mosquée de Strasbourg qui a fait tellement polémique, a obtenu de la justice le droit de construire une école musulmane privée à Albertville contre l'avis du maire. La République française doit-elle laisser ce genre d'établissement s'établir sur son sol?
Écoutez, le fait d'avoir un permis de construire ne veut pas dire que l'école va être créé. Il y a un certain nombre de procédures. Je sais, moi-même, je suis en train de monter une école au niveau de la Grande Mosquée de Paris. Je sais que le ministère
de l'Éducation... Mais vous avez signé la charte de l'islam de
Absolument.
France, ce qui n'est pas le cas de Miligorus.
Absolument, mais je sais très bien qu'il le fait d'avoir obtenu le permis de construire est peut-être le début d'un processus, mais il y a encore un certain nombre d'étapes. Est-ce que cela va aller jusqu'au bout? Je ne crois pas.
Mais vous dites qu'il ne faut pas que cette école soit construite?
Écoutez, moi je ne connais pas le dossier, mais...
Mais vous connaissez ceux qui le déposent, le dossier?
Bien sûr, et je crois...
Ils sont dangereux?
Ils sont pas
pour la République?
Ils ne sont pas dangereux pour la République, mais pourquoi n'ont-ils pas signé la charte alors que nous avons travaillé tous ensemble sur cette charte? Et je vois que le Miligorus, notamment, s'éloigne de plus en plus des principes qui étaient émis et qu'ils avaient acceptés au niveau de la charte, des principes pour l'islam de France. Et je crois que c'est dommage qu'on en arrive à ces extrêmes. Mais je crois qu'il faut être vigilant parce qu'il s'agit d'éducation, il s'agit d'école. Et si déjà nous partons sur un projet de société qui ne s'adapte pas à la société française, oui, ça devient un danger et il faut faire en sorte pour éviter que ce genre d'école aujourd'hui n'apparaisse de plus en plus sur le territoire national.
L'islam de France en tant qu'entité est-il une illusion, monsieur le recteur?
Non, nous sommes en train de construire l'islam de France. Je fais partie des architectes qui construisons l'islam de France.
Mais vous avez quitté le CFCM, Conseil français du culte musulman, parce que précisément il y avait trop de divisions?
Non, parce qu'il y avait aujourd'hui, nous avons établi une règle. Le président de la République avait, au moment de la rédaction de la charte, avait dit que les fédérations qui ne signeront pas la charte ne feront plus partie du décorum. Moi, j'applique à la règle ces orientations parce que je me pose toujours la question pourquoi ces fédérations ont refusé de signer la charte. Pourtant, pour moi, la charte elle a un caractère historique. C'est la première fois dans l'histoire d'une minorité musulmane en Occident qui affiche
autant les principes à la fois du respect des lois de la République, mais en même temps nous faisons un pas en avant puisque nous expliquons à ceux qui n'ont pas pour rôle de s'intéresser de l'intérieur à l'islam, nous avons pris notre part en disant voilà quels sont les bons usages du culte musulman en France et voilà ce qu'il faut aujourd'hui extraire de la pratique religieuse de l'islam en France.
Chemzedine Hafiz, le climat n'est pas plus détendu avec l'Algérie. La France est un ennemi traditionnel de l'Algérie, a dit le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'était la semaine dernière au Sénat algérien. Vous êtes franco-algérien. Est-ce que vous partagez son diagnostic ? La France est un ennemi traditionnel de l'Algérie ?
Pas du tout. Moi, je pense que la guerre d'Algérie, il faut tourner la page. Il y a aujourd'hui des historiens qui se penchent sur la question. Moi, je
Benjamin
considère
Stora, notamment.
Notamment, et je fais partie de celles et ceux qui souhaitent créer un vrai pont entre les deux pays parce que nous avons tellement de choses communes.
Ça veut dire qu'il a tort de dire ça, le ministre.
Mais bien sûr. Et vous savez, ce n'est pas le seul. Hein. Ouais. À chaque fois, à l'époque, au moment de la visite de Nicolas Sarkozy, il y a eu également une polémique. Donc, nous savons.
Mais ça veut dire, est-ce qu'il y a une volonté de réconciliation de l'autre côté de la Méditerranée, côté algérien ? Est-ce qu'elle est réelle, cette volonté
de réconciliation ? Moi, je pense que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec qui j'ai beaucoup échangé sur cette question, il est vraiment dans cette logique. Il faut absolument regarder le passé avec énormément d'objectivisme, mais en même temps, il faut regarder l'avenir. Et aujourd'hui, l'Algérie a besoin de la France comme la France a besoin de l'Algérie.
Pardon. Il faudrait qu'Emmanuel Macron aille sur place. Il faudrait une visite d'Emmanuel Macron en Algérie.
Bah, vous le souhaitez ? D'abord, le président Tebboune devait venir en France.
Ouais.
Je ne sais pas où c'est que ce projet se trouve.
Mais vous le souhaitez que ça se fasse, vous, ça, rapidement ?
Ah oui, bien sûr, parce que je pense que les 4 ou 5 millions de franco-algériens ou d'algériens qui sont en France attendent vraiment qu'il y ait cette réconciliation entre ces deux pays, parce qu'aujourd'hui, vous imaginez le tiraillement des franco-algériens dans cette situation. C'est comme si le père et la mère se disputaient devant nous. Donc on n'aime pas trop cette situation. Et nous sommes, moi personnellement, je fais partie de celles et ceux qui voulons absolument, dans notre domaine de compétences à chacun, moi j'espère pouvoir présenter cet islam algérien de mes ancêtres, qui est un très bel islam authentique. Et j'aimerais également qu'en Algérie, on comprenne les valeurs universelles qui sont portées par ce pays des droits de l'homme, il ne faut pas l'oublier. Donc, aujourd'hui, on fait de fausses querelles, peut-être avec des visées politiciennes, mais je crois que la grande partie de la population algérienne a envie de tourner la page, comme la population française, et aussi bien le
Pour
président...
Pour vous, dans celui qui est votre autre pays, l'Algérie, ce ministre n'a rien à faire dans un gouvernement aujourd'hui ?
Ça, je n'ai pas, je dirais, à décider s'il doit faire partie du gouvernement, mais en tout cas, son expression, elle est indélicate, peut-être maladroite, mais en tout état de cause, elle ne reflète pas du tout ce que aujourd'hui l'Algérie, les Algériens considèrent de ce qu'est la France.
Et vous le disiez au début de cet entretien, le Ramadan débute demain en France et pour un mois. Quel est le sens de cette fête ?
Ben écoutez, d'abord, c'est sur le plan religieux un moment de recueillement, un moment de foi qui est important parce que nous sommes face à une journée entière de privation. On ne mange pas, on ne boit pas, etc. Donc c'est un moment important où nous nous rapprochons de celles et ceux qui vivent quotidiennement ce genre de situation. Et en même temps, je crois que la pandémie nous a appris à être encore beaucoup plus solidaires parce que notre religion nous enseigne la solidarité, penser aux plus fragiles, aux vulnérables. Il faut toujours avoir ce regard vers les autres et je crois que le Ramadan est une très très belle leçon à la fois de simplicité, de modestie et de patience.
Je termine avec une petite question qu'on nous a posée sur l'appli RTL, l'application RTL. Les croyants ont-ils le droit de se faire vacciner pendant le jeûne du Ramadan ?
Absolument, j'ai même fait un flyer et j'ai fait un communiqué là-dessus parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient en disant que les vaccins à la fois n'étaient pas du tout adaptés à la religion musulmane et surtout l'injection intramusculaire. J'ai fait un communiqué là-dessus, j'ai réuni une commission théologique de la Grande Mosquée de Paris pour rappeler qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une cause de rupture du jeûne.
Donc on peut se faire vacciner pendant
Absolument.
Le Ramadan.
Vais moi-même me faire vacciner demain.
Merci
premier
beaucoup,
jour du Ramadan.
Chemzedine Hafiz, le recteur qui fait des flyers, hein, d'être venu dans RTL Soir. Merci à vous. À suivre l'œil de Natacha Polony. Elle n'a pas les questions du bac 2021, Natacha. En revanche, elle s'en pose déjà beaucoup.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et le rappel des titres à 18h31 avec vous, Amandine Bégaud.
Et à la une, cette fusillade cet après-midi en plein Paris. Un homme a été abattu devant un hôpital du 16e arrondissement. Une femme grièvement blessée. Le tireur est ce soir toujours en fuite. Il n'a pas été identifié, pas plus d'ailleurs que la victime. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat. Et dans l'actualité également, les maires qui disent oui au maintien au mois de juin des élections régionales et départementales. À la veille d'un débat à l'Assemblée nationale, 56% des élus se prononcent pour. C'est ce qu'indique ce soir le ministère de l'Intérieur qui avait ce week-end demandé au préfet d'interroger les maires. Et puis un début de retour à la normale en Grande-Bretagne. Les terrasses des pubs ainsi qu'un grand nombre de commerces, les coiffeurs notamment, ont rouvert aujourd'hui après plus de 3 mois de fermeture. La moitié des adultes britanniques sont désormais vaccinés.
La météo, Louis Baudin. Attention, demain les températures vont rester très très basses.
Et oui, parce que le ciel sera souvent dégagé. D'ailleurs, durant la nuit, durant la journée de demain, résultat effectivement encore de fortes gelées au réveil. Alors demain matin, c'est vrai qu'il y aura quand même quelques passages nuageux qui vont circuler du centre au nord-est, mais tout ça va disparaître en cours d'après-midi pour laisser, comme dans toutes les autres régions, le soleil s'imposer très largement. Je ne dis pas un grand ciel bleu, mais au moins un soleil dominant avec quelques passages nuageux, un petit peu plus dense l'après-midi sur les Alpes du Sud ou encore la Corse avec un tout petit risque d'averse. Ailleurs, donc pas de précipitation, du soleil et après les gelées matinales, des températures toujours fraîches l'après-midi pour la période, 8 à 12 degrés, pas plus dans la moitié nord, 12 à 16 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis. L'œil de Natacha Polony. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Votre œil, parce qu'on est déjà lundi, mais aussi parce qu'on est déjà au mois d'avril. Et on l'oublie un peu, mais pour les lycéens, le bac, ça approche, les inquiétudes grandissent, parce qu'évidemment, cette pandémie vient tout bousculer là encore. Quel est le problème pour vous exactement?
Le problème, c'est justement que la pandémie est en train de réduire à néant la grande réforme que Jean-Michel Blanquer voulait mettre en place. En fait, oui, alors le dernier épisode en date, hein, c'est qu'il serait question de diminuer le coefficient du tout nouveau grand oral. Oui. C'est cette épreuve qui illustrait la volonté du ministre de modifier en profondeur l'examen phare de la scolarité française. Alors on résume. L'idée de départ, c'était de constater que le baccalauréat n'avait plus aucun sens. C'est pas ça qui détermine l'orientation des élèves puisqu'elle se fait avant. La multiplication des mentions et des notes délirantes prouve le peu de valeur d'un examen qui totalise 98% de réussite, hein, si on inclut ceux qui le passent plusieurs fois, donc il faut quand même le dire de temps en temps. Bref, il suffit de se présenter et d'être un peu persévérant pour l'obtenir. Alors, en revanche, derrière, on a 50% d'échecs en première année à l'université et des professeurs qui alertent sur le gouffre entre le niveau des bacheliers et ce qui est demandé en fac. Mais surtout, le but de cette réforme, c'était de modifier le lycée lui-même, parce que les épreuves du baccalauréat déterminent l'organisation des enseignements pendant les 3 années qui précèdent.
Alors ça, c'était le but de la réforme, sauf que, vous le disiez, patatras, le coronavirus a tout remis en cause, tout.
Oui, le coronavirus, c'est l'obligation d'annuler les épreuves dans les spécialités, ces nouvelles disciplines qui devaient faire coller les enseignements avec les exigences du monde moderne, enfin, d'annuler les épreuves et de le passer en contrôle continu. Mais surtout, les lycéens et les professeurs font remarquer qu'on ne se prépare pas à de nouvelles épreuves à distance avec des cours en présentiel une semaine sur deux. Le cas le plus emblématique, c'est évidemment ce grand oral. Comment on prépare des élèves à distance? Comment on leur fait comprendre les codes de cet exercice? Bon, cela dit, s'il y a des lycéens qui nous écoutent, hein, je voudrais quand même les rassurer.
Les rassurer, mais comment vous voulez les rassurer, Natacha? Vous pensez que ça va bien se passer quand même?
Alors d'abord, il faudrait que ceux qui ont passé leur bac en 68 leur expliquent comment ils ont obtenu un bac entièrement à l'oral, façon école des femmes.
Oui, ils avaient tous 10.
Ouais. 10 sur 10 pour tout le monde. Et en fait, c'est tous les ans la même chose. Dès que les élèves ou leurs parents ont une inquiétude sur la difficulté d'une épreuve, on passe des consignes au correcteur pour leur imposer l'indulgence et les notes sont encore meilleures que les autres années. Bon, quant au grand oral, si c'était agi de juger la capacité à construire une argumentation, la force de conviction, là, d'accord, il y aurait eu matière à stresser. Mais en l'occurrence, on a transformé ça en une sorte d'entretien d'embauche pour juger de la personnalité du candidat, de son projet d'orientation. Bref, des critères totalement subjectifs. Et le but, c'est quand même de donner une bonne note à tout le monde. Alors, la sélection, la vraie, en fait, elle se joue ailleurs. Sur la capacité des parents à inscrire leurs enfants dans le bon établissement, sur la connaissance des filières qui ouvrent les meilleures portes, tout sauf le mérite. La génération Covid est sacrifiée, c'est vrai. Mais en fait, elle n'est pas la seule à qui on ment sur son niveau pour maintenir l'illusion d'une école républicaine qui donnerait leur chance à tous.
Obrigado. Merci beaucoup, Natacha Polony. Demain, un garçon gentil, mais qui ne fait pas toujours, bien comprendre à l'oral. Donc il aura un oral de rattrapage demain, c'est Philippe Cavrivière. Ce sera l'œil de Philippe. Merci beaucoup à vous, Natacha, et à demain. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai quel dictateur tu es. Christian Roudot s'est invité à la table des tyrans. Il en a fait un livre forcément savoureux. Christian Roudot, invité d'RTL Soir, tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
Quand l'assiette d'un dictateur parle pour lui, à la table des tyrans, c'est le dernier livre publié par le journaliste et écrivain Christian Roudot. Il sortira mercredi chez Flammarion. Bonsoir et bienvenue à vous dans RTL Soir, Christian Roudot.
Bonsoir.
Déjà, quelle drôle d'idée d'aller regarder dans l'assiette des dirigeants, des dictateurs. Ça vous est venu comment? Ça vous est venu d'où, ça?
Je me suis intéressé d'abord à l'assiette des présidents de la République sous la Ve République. J'ai fait un documentaire à ce propos, coécrit un livre à ce propos. Ouais. Et au fil de mes recherches, je tombais sur des anecdotes où on entendait parler d'Hitler, de Staline. Et ça m'a donné envie de pousser la porte de salle à manger un peu moins recommandable que les palais présidentiels de la Ve République.
Alors précisément, vous êtes invité à la table de Mao, de Bokassa, de Staline, de Ceausescu, de Saddam Hussein et d'Hitler. De manière générale, que dit leur rapport à la nourriture? Est-ce que le rapport à la nourriture d'un dictateur dit quelque chose de sa politique ou du bonhomme qu'il est?
Oui. Je pense qu'il dit beaucoup de choses. Ce qui m'a le plus surpris, au-delà de la paranoïa, de la mégalomanie assez classique chez ces dictateurs, oui, ils sont tous parano, mais avec une certaine, avec une certaine raison, parce que ils peuvent, trois des six ont quand même terminé dans des conditions, enfin des morts violentes. Donc être empoisonné, c'est pas une vue de l'esprit. Donc ils ont raison de se méfier de leur assiette. Mais au-delà de ça, ce qui m'a semblé passionnant, c'est comment ça raconte déjà leur enfance. Des six dictateurs dont on parle, ont eu l'expérience de la faim. Le seul qui a été élevé dans un milieu plutôt petit bourgeois, c'est Adolf Hitler. Ouais. Mais lui-même, lorsqu'il était un artiste raté, il a connu l'expérience de la faim. Et dans Mein Kampf, il la met en scène. Il met en scène sa faim pour dire « Moi, j'ai connu cette expérience comme vous, peuple allemand. » Et ça deviendra d'ailleurs un des slogans du parti nazi « Liberté, travail et pain ».
Oui, liberté, travail et pain. Alors, moi, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Hitler était végétarien.
Oui, alors c'est hautement débattu. Si vous voulez, lors d'un dîner...
C'est pas une certitude ou c'est...
Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il est devenu végétarien. Mais encore aujourd'hui, c'est très disputé, notamment du point de vue du végétarien, parce que vous imaginez bien qu'Adolf Hitler, c'est pas le meilleur homme sandwich pour vendre la cause du végétarisme.
Un dîner en ville, on dit t'es végétarien comme Hitler, tout de suite, ça calme.
Mais moi, je pense que, sincèrement, tous les témoignages, et je peux vous dire que j'ai beaucoup travaillé, notamment sur Adolf Hitler, vu la littérature est tellement volumineuse, et tous les témoignages vont dans ce sens-là. Il était végétarien. Alors, les causes de son végétarisme, et même le moment où il est devenu végétarien, est encore largement, reste mystérieux, mais je pense que c'est son hypochondrie maladive, cette peur, notamment le décès de sa mère très jeune d'un cancer. Il a fait le lien avec la consommation de viande rouge, et il est devenu une sorte de végétarien un peu fantasque d'ailleurs, en prétendant que si les hommes étaient devenus végétariens, ils vivraient jusqu'à 120 ans, 150 ans. Donc voilà, c'est quand même un végétarien qui est assez militant et il en discute souvent autour de la table.
Alors lui, il était bien bien parano, il avait une quinzaine de goûteuses, hein, vous le racontez dans le livre. C'est particulièrement vrai aussi chez Staline. Du coup, quand on était reçu à la table de Staline, on était très bien reçu. Hein, il servait tout le monde d'abord.
Ah oui, c'est ce que j'appelle une forme de fausse convivialité, parce que c'est Khrouchtchev qui le raconte dans ses mémoires. Il dit « Tiens, Nikita, prends un peu de cette viande, goûte. » Il a tellement peur d'être empoisonné, surtout à la fin de sa vie, qu'il incite ses invités à se servir eux-mêmes. Et après, il peut, de façon plus, plus tranquille, à son tour, manger les aliments qui lui sont proposés.
Il débouche les bouteilles de vin lui-même.
Il débouche les bouteilles de vin lui-même. Mais je veux dire, c'est pas l'empoisonnement dans l'Union soviétique et même en Russie, ça n'est pas une vue de l'esprit.
Oui, ça c'est sûr. On apprend aussi, alors c'est pareil, c'est ça qui est intéressant, les choses à la fois très fortes et plus anecdotiques. Il avait une passion pour les bananes.
Oui, une passion un peu exotique sur le tard. Alors il faut savoir, tout comme Mao, parce que dans mon livre, j'essaie de montrer le côté un petit peu presque organique. On descend dans les entrailles des tyrans. Ils ont tous des obsessions sur la constipation. Parfois, c'est surtout Mao. Et là, dans le cas de Staline, il est clair que lui-même, c'est exotique à l'époque, la banane. Et en plus, il a une dentition qui est de plus en plus gâtée. Et pour le coup, ça lui permet de manger de la banane, qui est quand même un fruit qui est plus facile à manger.
manger, à croquer qu'une pomme.
Vous n'êtes pas dit à un moment, c'est sympa, c'est presque trop sympa, je vais les humaniser, tous ces bouchers-là, non ?
Bah, je pense qu'il faut les humaniser, et c'est ce que j'ai voulu
pour
faire, de les regarder à hauteur de table, et montrer parfois le côté ridicule. Parce que Adolf Hitler, effectivement, c'était pas forcément que le fou furieux à table, il pouvait être un peu, je vais dire, normal, entre guillemets, et c'est ça, cette double facette du tyran.
Pour comprendre ce qu'il a été dans l'histoire, il faut aussi tenir compte de ce qu'il était au quotidien, c'est ça que...
J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais je pense que cet aphorisme de Brillat Savarin, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es, quel dictateur tu es, je pense qu'il est pertinent et il reste pertinent aujourd'hui.
Alors, on va pas tout révéler, hein, vous parlez aussi de Mao qui lui faisait clairement de la politique avec son assiette, ses épices traduisaient son état d'esprit. Après avoir affamé son peuple, il va se priver de viande, ça, pour partager leur destin. Voilà,
c'est la comédie, c'est le côté, la comédie du pouvoir et du pouvoir dictatorial. La famine, la grande famine liée à sa décision inepte du grand bond en avant a conduit des dizaines de millions de morts de Chinois à la mort. Et lui, pour montrer qu'il est en solidarité alors que c'est sa propre décision, il décide de se priver de viande, mais ça n'empêche pas de manger du poisson.
C'est de la com, ou vous pensez qu'il y a une sincérité chez eux, qu'ils ont un tel système mental et intellectuel qu'ils se disent oh non, en fait je suis solidaire sincèrement avec mon peuple, même si je me rends pas compte que c'est moi qui les ai mis dans cette situation mortelle.
Je pense que ça peut venir des deux. Je pense que sincèrement il y a quand même beaucoup de gastro-communication.
Vous parlez aussi de Saddam Hussein qui lui a clairement une revanche sociale à prendre. Et alors c'est quoi cette histoire qu'il arrivait quand il était invité à Paris, il arrivait à l'Élysée avec sa grosse carpe, avec son propre poisson.
Thomas Groff qui est le poisson qui
Comment il s'appelle le poisson ?
Le masgouf. Qui est cuit au feu, au barbecue. Et lors de sa visite, je crois me souvenir, c'est en 1975, à l'hôtel de Marigny, hein, ouais. Juste en face du palais de l'Élysée, il avait décidé de faire un barbecue qui a empesté tout l'hôtel Marigny. Et c'était pour inviter à l'invitation de Jacques Chirac. Chirac, qui met bien ce petit côté un petit peu canaille, et autour de la table notamment.
Bon. C'est un lieu de décision, c'est un vrai lieu de pouvoir. Voir la table ou pas ?
C'est Molotov, le ministre des Affaires étrangères de Staline, qui dit Staline prenait ses décisions à table. Il y passait beaucoup de temps. Il y avait une sorte d'orgie, parce qu'on buvait beaucoup aussi. Ouais. Ce qui est intéressant avec Staline, c'est qu'il faisait boire ses invités in vodka veritas. C'est-à-dire que lui, il buvait du vin géorgien, mais il faisait en sorte que tous ses invités boivent pour que les langues se délient.
Oui, et vous racontez notamment un repas entre De Gaulle et Staline en décembre 1944, où il fait boire le général De Gaulle.
Oui, et justement, il est là aussi. Le général de Gaulle, on ne le fait pas boire contre sa volonté. C'est surtout Staline qui boit le plus, mais il se comporte de façon assez outrancière. Il y a des belles pages du général de Gaulle dans ses mémoires à propos de cette rencontre un peu inédite. Ce qui est intéressant autour de la table de ces dictateurs, c'est quand même ce qu'on appelle la commensalité, oui. C'est cet état d'esprit autour de la table. Il y a quand même toujours un halo de peur autour de la table. Et c'est ce que j'ai voulu aussi raconter dans ce livre.
Bon, je vous ramène un tout petit peu quand même à nos présidents. Vous nous avez dit que vous aviez écrit sur les présidents de la 5e République. On se souvient du cordon bleu d'Emmanuel Macron, oui. Sur une aire d'autoroute le jour du second tour de la présidentielle en 2017.
Et ça l'a humanisé.
Ouais, les assiettes des démocrates, elles vous intéressent aussi ou pas ?
Ah oui, grandement. Ouais. Là aussi, je trouve que la fameuse grille de lecture, le prisme de la cuisine, est magnifique pour comprendre les présidents démocrates et en l'occurrence les présidents français. Vous avez Nicolas Sarkozy, voilà, c'est bien ça, qui était, j'allais dire Staline, je sais pas.
Je pense que ça lui plaira beaucoup, Nicolas Staline.
Et donc, en l'occurrence, voilà, qui est très, très transgressif. Un bon repas, c'est un repas vite expédié. Vous avez, bon, l'ogre Chirac, la convivialité.
Et alors, Chirac, il n'en pouvait plus qu'on lui serve la tête de veau partout. Il a dit une fois qu'il aimait ça,
c'est ce que j'avais révélé avec, ouais. Avec Bernard Vaution, l'ancien chef de l'Élysée. C'est que lui avait dit, écoutez, la tête de veau, on en a assez. On lui en a servi que deux fois à l'Élysée parce que, à force de le savoir, il mange de la tête de veau, à force de le répéter, à chaque fois qu'il sortait, on lui offrait quoi ? De la tête de veau.
Et merci quand même pour l'imitation qui équivalait son pesant de cacahuètes au passage. Comment est assurée aujourd'hui la sécurité alimentaire de nos présidents ? C'est un sujet ou pas où on est...
Enlevons tout de suite le mythe du fait qu'il y aurait des goûteurs. Moi, je pense que la sécurité... par définition, j'ai pas énormément de choses à vous dire là-dessus, ouais. Parce que on ne communique pas sur les mesures de sécurité.
Les cuisines de l'Élysée, tout ça, on contrôle l'arrivée des produits, tout se passe bien. Quoi.
Oui, tout se passe bien. Oui, ça, c'est quand même passé au contrôle, effectivement. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a quand même une confiance qui s'établit par rapport à la brigade, mais je peux vous dire que, comme c'est un endroit sensible, le passé des cuisiniers et toutes des petites mains qui ont l'occasion de toucher au plat présidentiel, effectivement, ils sont quand même vérifiés
plutôt deux fois
plutôt
qu'une.
Deux fois qu'une. Dernière question, Christian. Vous avez été correspondant à Londres pendant 12 ans, hein, je crois, pour différents médias. Qu'est-ce qu'on mange à la table de la reine d'Angleterre ? On parle beaucoup d'elle en ce moment.
De la cuisine anglaise. Ils essaient comme toute cuisine officielle. Pourquoi vous faites cette tête ?
Je sais pas. Comme ça, d'un coup, la cuisine anglaise, je me dis que c'est pas.
Non, mais.
C'est pas le festin, mais en tout cas, pas au sens où on
l'entend. Elle est peut-être moins mauvaise qu'on ne le dit. Mais pour les grands dîners d'État, c'est de la cuisine assez classique, assez majestueuse. Mais je pense que peut-être pour la cuisine anglaise, le spectacle est plus autour, notamment dans le château de Windsor, autour de la table plutôt que dans l'assiette.
Et vous mangez équilibré au moins ?
Ah oui, tout à fait. Ouais, je veux vous dire.
De se voir, en tout cas pour ceux qui nous regardent sur RTL.fr. Merci, merci Christian Rudeau. Votre livre s'appelle À la table des tyrans, on passe un vrai bon moment à table, comme quoi encore un moment de convivialité. Livre qui sortira après-demain chez Flammarion. Merci à vous d'être venu ce soir. Eh oui, musique car Veolia et Suez se marient. Il n'en fallait pas plus à Julien Molcou pour convoler dans la culture de l'actu. Échange des consentements juste après la pub.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Julia Molcou pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Après des mois de discussions et de procédures, l'union entre Suez et Veolia devrait finalement se faire. On l'a appris aujourd'hui. Et ce mariage entre les deux groupes vous a inspiré ce soir dans la culture de l'actu.
Mariage d'amour, mariage d'argent. J'ai vu se marier.
Et là, c'est plus un mariage d'argent qu'un mariage d'amour entre Veolia et Suez.
Oui, mais là, voilà, il n'y a pas que Georges Brassens qui ait vu se marier toutes sortes de gens. Le mariage est un thème très présent dans la littérature. Par exemple, il est multiple et plein de disputes pour Shakespeare dans Beaucoup de bruit pour rien. Il est d'un ennui mortel pour Emma Bovary chez Flaubert. Nombreux sont celles et ceux qui veulent empêcher Figaro d'épouser Suzanne chez Beaumarchais. Enfin, en 1907, Léon Blum, dans son ouvrage Du mariage, appelait à une égalité prénuptiale entre l'homme et la femme. En gros, si vous voulez un mariage réussi, eh ben laissez les femmes vivre leur vie et découvrir le plaisir autant que les hommes avant de les marier. J'adore Blum.
Oh là, une marche nuptiale là.
Alors cet air connu, on le voilà, ok, il est connu de tous, mais est-ce que vous savez de qui
pas.
Il est ?
Non, je ne saurais pas dire. En vrai.
Alors il est de Wagner. C'est la marche des fiançailles issue de son opéra Lohengrin. Et c'est le moment où Lohengrin et Elsa sont conduits dans leur chambre nuptiale. C'est vrai qu'il est très courant d'entendre ce morceau lors d'un mariage, mais pour autant, je ne suis pas sûre que tout le monde ait en mémoire que dans l'opéra de Wagner, bah, les choses tournent très très mal entre les deux fiancés qui se séparent avant la fin de l'acte 3.
Dommage.
Faut peut-être choisir autre chose pour votre entrée dans l'église. Je dis ça, je ne dis rien. Et puis tenez, voici quelques autres informations complémentaires sur ce que c'est vraiment qu'un mariage.
Un mariage, c'est comme un défilé de haute couture. Chaque détail compte.
Un mariage, c'est un engagement.
Un mariage, c'est l'occasion de s'habiller pour les photos.
Ma chérie, je t'en prie, va t'arranger. On voit ta culotte.
Un mariage, c'est d'abord une belle messe. Une belle célébration.
Et alors ? Mais si personne ne respecte plus rien, c'est inutile de faire une cérémonie religieuse. Ils sont mariés, allez, zou !
Bien sûr que le mariage, c'est un sujet, un super sujet de cinéma.
Mais oui, alors ici, c'était Denis Granier-Defer dans Pièces montées qui, en 2010, nous proposait sa vision du jour J. D'autres se sont intéressés plutôt aux témoins, à l'enterrement de vie de garçon, ou comme dans Les Noces rebelles, à cette longue aventure qui ne sera pas tous les jours une promenade de santé. Mais croyez-moi, si vous voulez faire le film sur le mariage qui ne sera jamais détrôné, eh bien, vous prenez Hugh Grant et Andy McDowell, vous mettez un petit peu d'Elton John sur la bande-son, et vous glissez ici ou là, je sais pas moi, entre quatre mariages par exemple, un petit enterrement.
Il y a beaucoup de chansons qui parlent de mariage ou pas ?
Eh bah, pas tant que ça. J'ai un peu galéré. Mais grâce à Amadou et Mariam, et bah, j'en sais un peu plus
le
sur le mariage
à Bamako.
À Bamako.
Les dimanches à Bamako. C'est le jour du mariage.
Faites des spoils. Alors, bon, je ne sais pas si vous êtes marié, Thomas. Je ne sais pas non plus si Louis est marié. Mais à moi, on a toujours fait que des non-demandes en mariage.
Ouais.
J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main.
Ça, tous ils m'ont tous fait. Peut-être
mais
que
Louis m'avait demandé, il m'a dit tu crois que je peux la non-demander en mariage ? Je lui ai dit vas-y, c'est bon. C'est vrai, Louis. Hein.
Merci, oui, c'est vrai. Thomas.
Non, mais Louis, les non-demandes, j'en ai eu trop.
Je ne peux pas tout dire non plus.
Non.
Mais je crois qu'en fait, j'aurais dû faire comme Karen Cheryl, j'aurais dû demander les choses franchement. ça, vous la connaissiez pas celle-là?
Pas du tout.
Chanson de 1977, Épouse-moi.
Alors, là je crois quand même, Louis, ça s'adresse directement à vous, qu'est-ce que vous lui répondez? On a l'impression d'être en trop.
Bah, à côté de moi, il va faire un peu froid, qu'il va faire du soleil.
C'est donc un vent.
Ah, c'est un vent. Un vent météorologique.
Il n'y aura pas trop de vent demain.
Je me sens seule. Allez, à demain.
Oh non, Julia, non.
Si quelqu'un veut épouser Julia Bolko, vous nous écrivez, hein, n'hésitez pas.